Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mardi 5 avril avec le journal de Sébastien Logeni. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir par une année record en matière de recrutement.
On parle ici des projets de recrutement des entreprises françaises pour cette année 2022, plus 12% par rapport à l'an dernier. Un marché du travail très dynamique malgré la guerre en Ukraine. Explication du service économie dans un instant. En Ukraine, l'enfer qui justement continue pour les habitants de Mariupol, le convoi humanitaire du CICR n'aura finalement pas lieu. La Croix-Rouge jette l'éponge. Reportage à suivre. À suivre aussi, pas de motif discriminatoire dans l'affaire Jérémy Cohen, selon le procureur de Bobigny. Le cynisme d'Orpea dénoncé dans le rapport de l'IGAS rendu public aujourd'hui. Et puis Amazon qui se lance dans la constellation de satellites avec Ariane 6.
À 18h15, un jour dans le monde. Aujourd'hui, on regarde la guerre en Ukraine vue du Sud et la très grande prudence avec laquelle l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie regarde ce conflit et refuse surtout de choisir un camp entre Russie et Occident. À 19h20, c'est le téléphone sonne, la crainte des producteurs de fruits, des producteurs de vin. Une fois de plus, c'est le gel, mais pas seulement, les épisodes de canicule. Chaque année, c'est pareil, les fruits, les vignes souffrent et les agriculteurs doivent s'adapter. Les bougies, les voiles d'hivernage, les tailles tardives, adapter l'agriculture au climat. Quelle méthode, quel résultat, c'est le sujet ce soir avec vous au 01 45 24 7000.
France Inter.
Les intentions d'embauche atteignent donc un niveau record.
Oui, c'est la traditionnelle enquête annuelle de Pôle emploi qui le dit, une enquête auprès de plus de 400 000 entreprises françaises et qui fait état donc de plus de 3 millions de projets de recrutement pour cette année. Bonsoir Elia Bergel.
Bonsoir.
12% de plus d'intentions d'embauche qu'en 2021. Des projections très optimistes, Elie, mais qui ne prennent pas en compte la guerre en Ukraine car l'enquête a été réalisée avant le début de l'invasion russe.
Une entreprise sur trois prévoit d'embaucher cette année pour plus de 70%. Il s'agit d'emplois durables, CDI ou CDD de plus de 6 mois. Grand beau donc du côté des recrutements, se félicite Pôle emploi. Mais la guerre en Ukraine pourrait menacer cette embellie, prévient Éric Ayer, spécialiste emploi à l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Globalement, les prix des matières premières ont augmenté, donc les coûts pour les entreprises ont aussi augmenté. On peut se diriger vers un embargo sur le pétrole ou sur le gaz russe. Ça pourrait avoir des conséquences tout de même sur l'économie et donc sur les perspectives de croissance.
Par ailleurs, la reprise du Covid en Chine pourrait freiner les envies d'embauche des entreprises aussi. Une économie chinoise de nouveau grippée par la politique zéro Covid de Pékin peut provoquer des problèmes d'approvisionnement. En France, un ralentissement de la production.
Les perspectives de croissance étant plus faibles, il est possible que l'emploi s'ajuste à ce ralentissement et qu'il y ait moins de perspectives d'embauche qu'anticipées. Et donc, on est une mauvaise surprise de ce point de vue-là.
Mais de son côté, Pôle emploi assure que fin mars, il y avait toujours un grand nombre d'offres de recrutement déposées conformément aux prévisions, notamment dans les secteurs des services, dans l'industrie, le BTP, les hôtels ou les restaurants.
Elie Abergel, du service économie de France Inter, précisons que plusieurs métiers, malgré tout, continuent de manquer de main-d'œuvre, les couvreurs, les aides à domicile, les infirmiers, les chaudronniers ou encore les ouvriers du BTP.
Mariupol a dépassé le stade de la catastrophe humanitaire.
Déclaration alarmante du maire de la ville aujourd'hui assiégée par l'armée russe depuis plus d'un mois. La situation pour les 130 000 habitants, dit-il, est devenue invivable. Et c'est pour cette raison que depuis des jours, la Croix-Rouge internationale tente d'organiser une évacuation des derniers habitants. On a cru que ces convois allaient pouvoir partir, mais devant l'impossibilité de faire respecter le cessez-le-feu, on a appris aujourd'hui que le CICR renonçait. Les précisions à Zaporijjia, là où les évacués auraient dû arriver, de notre envoyé spécial sur place, Marie-Pierre Véraud, avec Arthur Gerbeau.
La Croix-Rouge pensait pourtant disposer des autorisations nécessaires. L'engagement avait été pris, nous dit-on, mais une fois sur place, ses équipes n'ont pu que constater que les promesses pour un passage sécurisé avaient fait long feu. Cela n'étonne guère le conseiller politique du maire de Mariupol, Petro Andrushenko, qui, nous dit-il, n'avait pas fondé de grands espoirs dans ce convoi.
Tout accord avec les Russes, à quelque niveau que ce soit, en tout cas pour ce qui concerne Mariupol, ça se termine toujours de la même façon. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé pour l'évacuation des citoyens turcs. Ils étaient 86 réfugiés sous la mosquée. Il y a eu des négociations directes entre Erdogan et Poutine, puis des accords au niveau des ministères des Affaires étrangères. Eh bien, leur convoi n'a pas pu avancer plus loin que Berdiansk. Alors, quand on voit que même à ce niveau, les accords ne sont pas respectés. Parler d'accord avec la Croix-Rouge et y croire, même si nous nous raccrochons à tout espoir, d'un point de vue pragmatique, nous savons bien que cela ne marchera pas.
Ils veulent exterminer tout ce qui est ukrainien, ajoute-t-il, sans cacher son extrême inquiétude pour les quelques 130 000 habitants toujours pris au piège à Marioupol. Il y a des combats très violents aujourd'hui, notamment dans le quartier du port, relativement épargné jusqu'à présent. Dans le sud de l'Ukraine, Arthur Gerbeau, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui a pris la parole à l'ONU aujourd'hui en visioconférence. Il demande à ce que la Russie soit tenue responsable pour crimes de guerre à Boutcha et exclue du Conseil de sécurité de l'ONU. La communauté internationale qui toutefois s'inquiète qu'il y ait d'autres atrocités commises. Boutcha n'est pas un acte isolé, a lancé Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. C'est une campagne délibérée pour tuer, torturer, violer. La presse américaine qui par ailleurs dans le New York Times a publié des images satellites qui semblent montrer que les cadavres de civils trouvés dans les rues de Boutcha étaient là depuis 3 semaines avant le départ des forces russes. Donc, contrairement à ce que déclare Moscou qui parle de mise en scène des Ukrainiens. Cette version du Kremlin, pas de crime de guerre contre les civils, manipulation des images par les Ukrainiens, elle est largement partagée chez les Russes qui n'ont plus accès à un seul média indépendant. Écoutez le reportage de Sylvain Tronchet, notre correspondant à Moscou, quand tout un pays est dans le déni.
Depuis 48 heures, la télévision russe tourne en boucle sur le même thème. Boutcha est une manipulation. Exemple hier soir avec l'un des intervenants de Vrimia, l'un des talk-shows les plus populaires du pays.
Ça a été géré par des professionnels, probablement les Britanniques. Ils sont les meilleurs en termes de manipulation. Disposer les corps correctement, tout faire pour avoir une belle image qui plaise à l'esprit nécrophile occidental.
Un discours que l'on peut ensuite entendre dans la rue, repris par Irina, 68 ans.
Boutcha, c'est un fake total. Les gars, vous devriez comprendre. Il y a des grosses équipes qui fabriquent ces fakes. Et pourquoi ? Parce que les nôtres ne sont pas allés là-bas pour tuer, mais pour sauver la population.
Si de nombreux Russes adhèrent à la propagande du gouvernement, d'autres préfèrent ne rien voir, suppriment les applications d'information de leur smartphone parce que la situation les rend mal, comme Siemion, un trentenaire qui a à peine entendu parler des crimes commis en Ukraine.
Franchement, cette information m'a échappé. Je sais juste qu'il s'est passé quelque chose d'horrible là-bas, donc je ne veux pas donner mon avis. Je ne veux pas savoir pourquoi tout ça se produit. Je ne veux croire aucun média.
D'autres encore préfèrent éviter notre micro. Depuis les nouvelles lois anti-fake news, contredire les sources officielles en Russie est un délit. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Moscou dans le viseur de l'Union européenne. Pour la 5e fois, nouveau train de sanctions à venir demain avec la quasi-certitude de suspendre cette fois les importations de charbon dont l'Europe dépend à 45%. Pas question, en revanche, d'arrêter les livraisons de gaz russe. Les pays européens qui par ailleurs ont expulsé 150 diplomates russes en 48 heures. Le conflit en Ukraine s'est aussi retrouvé sur franceinter.fr. On en vient à cette affaire qui agite les réseaux sociaux et les candidat à la présidentielle depuis plusieurs jours, l'affaire Jérémy Cohen, du nom de ce jeune homme mort le 16 février dernier, après avoir été percuté par un tramway à Bobigny, son décès faisant suite à une agression par un groupe de jeunes en pleine rue. Pas de motif antisémite identifié pour le moment, selon le procureur de Bobigny, qui faisait une conférence de presse cet après-midi, Emmanuel Leclerc.
Oui, le procureur de la République, Éric Mathé, a confirmé qu'à ce stade de l'enquête, il n'y a pas de motif discriminatoire antisémite, qu'il n'y a aucun élément permettant à ce jour, par exemple, d'établir avec certitude que la victime était porteuse de manière apparente ou non d'une kippa lorsque Jérémy Cohen a été roué de coups. Une minute seulement avant de se mettre à courir et d'être fauché par un tramway. Éric Mathé a donné, lors de sa conférence de presse, toutes les étapes de l'enquête. D'abord, concernant l'éventuelle responsabilité du chauffeur du tramway, cette partie a été classée. Il a fallu ensuite attendre jusqu'au 14 mars dernier, lorsqu'une vidéo d'un témoin a été remise aux enquêteurs. À partir de là, selon le procureur, tout s'est enchaîné normalement, mais reconnaît-il, les policiers du commissariat de Bobigny ont eu des difficultés à obtenir des témoignages pour identifier les auteurs, et ce sera désormais la mission des enquêteurs de la police judiciaire.
À cet égard, j'invite toute personne détenant des informations utiles à l'enquête à entrer en contact avec les services de police.
Le procureur de Bobigny a précisé également que des vidéos des bailleurs sociaux du quartier où a eu lieu le drame avaient été automatiquement écrasées car réclamées trop tard, mais les disques durs ont quand même été confiés à une société spécialisée pour essayer de récupérer quand même des images.
Emmanuel Leclerc au palais de justice de Bobigny avec Geoffrey Marianne. L'affaire de Jérémy Cohen dont se saisit également le chef de l'État, la justice doit, dit-il, passer et la clarté complète doit être faite. 2007, Emmanuel Macron, le président candidat qui était en visite aujourd'hui dans le Finistère, il se présente comme le candidat le plus pro-européen dans cette campagne et il dénonce le programme de la candidate du Rassemblement National.
Mais Madame Le Pen, elle veut sortir de l'Europe. Ah bon, mais je croyais que tout son programme en dépendait. Alors j'ai plus compris. Je ne suis plus le film. Je suis perdu. Elle a encore redit qu'elle voulait sortir de Schengen. Sortir de Schengen, c'est sortir de la libre circulation. Je le disais ici, il y a plein de touristes qui viennent chaque année. Courage. Mais oui, moi j'en suis resté à notre débat il y a 5 ans.
Voilà, en bref, encore en politique, Jean Lassalle s'engage à faire don de l'ensemble de ses biens s'il est élu et s'il trahit ses promesses faites aux électeurs. Le candidat de Résistons promet aussi d'organiser dès septembre 2022 3 référendums sur l'instauration du RIC, référendum d'initiative citoyenne, la reconnaissance du vote blanc et une baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur les hydrocarbures. C'est un rapport sévère qu'a rendu l'administration contre Orpea, publication aujourd'hui du rapport de l'IGAS, tant attendu sur le fonctionnement du premier groupe d'EHPAD privé. 524 pages expurgées néanmoins de son contenu couvert par le secret des affaires. Rapport accablant qui parle de comptes insincères, de nourriture insuffisante. Et dans le détail, Anne Reinstein, bonsoir. C'est un système d'un grand cynisme qui est dénoncé.
Oui, prenons le point spécifique des remboursements en cas de trop perçu, c'est surtout en cas de décès du résident. La loi prévoit que dès que ses affaires sont enlevées de la chambre qu'il occupait, la famille n'a plus à payer pour la location. Et donc, elle doit être remboursée des avances ainsi que de la caution. Normalement, ça doit être fait sous 30 jours suivant le décès. Eh bien, dans 99% des cas, Orpea dépasse ces 30 jours. Actuellement, ça représente 2 065 000 euros de dette. Ça en fait de la trésorerie. D'autant que les chambres, dans ces cas-là, peuvent être louées deux fois, ce qui explique les dépassements récurrents des capacités d'accueil. Du surbooking alors que le personnel est en sous-effectif, conséquence sur les couchers qui commencent à 17h30 dans certains EHPAD et le dîner sous-protéiné qui a lieu avant. Et si les résidents se plaignent, eh bien il y a peu de chances que leur signalement remonte jusqu'aux autorités compétentes. Les enquêteurs ont ainsi découvert qu'Orpea avait passé sous silence la présence d'une arme à feu dans une chambre ou encore une tentative de suicide, des événements qui normalement déclenchent une inspection de l'ARS.
Anne Orenstein, vers un non-lieu dans l'affaire du chlordécone, ce pesticide interdit en France en 1990 et à cause duquel 90% de la population de la Guadeloupe et de la Martinique ont été contaminés. Les juges d'instruction s'apprêtent à clore le dossier sans aucune mise en examen.
Et puis Sébastien, Elon Musk va avoir de la concurrence dans les étoiles.
Amazon se lance aussi dans la constellation satellitaire, ce système de centaines de satellites déployés au-dessus de la Terre pour assurer le Internet à haut débit à toute la planète. Le géant de la distribution vient de signer un contrat historique avec Ariane pour 18 tirs, avec Ariane 6, un défi pour cette fusée européenne, Victor Delande, qui n'a pas encore volé.
Oui, après 2 ans de négociations, Ariane Espace s'invite au grand banquet spatial d'Amazon. Pour Ariane Espace, le défi sera de faire décoller 6 fusées par an pendant 3 ans. À leur bord, une trentaine de satellites destinés, vous l'avez dit, à fournir du haut débit sur Terre d'ici à 2030. C'est forcément une très bonne nouvelle pour Stéphane Israël, président d'Ariane Espace, mais aussi une bonne dose de pression car Ariane 6 n'a jamais encore décollé.
C'est le genre de pression que l'on va qualifier de très positive. Ariane 6 a été conçu pour être lancé 11 à 12 fois par an. Et donc, l'engagement que nous prenons avec Amazon est compatible de cette cadence. Notre souci, c'était aussi de rester disponible pour d'autres clients. Nous devons travailler pour l'Europe, nous devons travailler pour nos clients traditionnels. Et donc, avec ce chiffre très spectaculaire de 18 fusées, nous allons au maximum de ce que nous pouvions faire avec Amazon. Et c'est vraiment une très grande nouvelle pour l'industrie européenne des lanceurs.
Ariane Espace, main dans la main donc avec Amazon, qui débarque sur ce nouveau marché de satellites en orbite terrestre basse, c'est-à-dire des satellites qui évoluent à 600 km autour de la Terre. Avec ces nouveaux contrats, le but d'Amazon est très clair, contrer l'offensive du fondateur de Tesla, Elon Musk, qui a bouleversé le marché spatial ces dernières années avec SpaceX.
Le contrat historique d'Ariane avec Amazon, c'était Victor Dolande.
Merci beaucoup Sébastien Legénie.